Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va, ça va. Vive les vacances.
Ah, vive les vacances. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Et vous n'avez sans doute pas reconnu, comme la plupart d'entre nous autour de cette table, il s'agissait de l'hymne japonais.
D'accord.
Et oui, et nous allons pas parler effectivement là de l'histoire du Japon, mais plutôt d'une partie de son histoire quand même, d'un art martial extrêmement célèbre à travers le monde. Maintenant, il s'agit de l'aïkido.
D'accord.
L'aïkido, et commençons comme d'habitude par un petit « Qui suis-je ?». Un petit qui suis-je, un personnage très très connu, il a notamment eu un énorme succès dans les films d'arts martiaux dans les années 70 et il était à l'époque surnommé le Petit Dragon. Qui suis-je? Alors ce soir, nous avons un invité prestigieux qui pratique cet art martial depuis quelques années, il me semble, il s'agit de Lionel. Alors Lionel peut se présenter. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Lionel, tu peux nous présenter rapidement à nos auditeurs?
Voilà, je suis un passionné d'aïkido. Voilà, je m'entraîne au complexe sportif de Villefranche, là,
oui.
Ryogyo. Et donc je suis à l'EPA Ista, le maître c'est Alain Perrache.
Ok, donc tu es un pratiquant local de Villefranche et on découvrira ensuite la suite de tout ce que tu viens de nous expliquer, ton maître et les significations d'EPA Ista.
Alors, justement, on va commencer par une présentation générale de l'activité. Alors, Lionel, pourquoi ce choix de l'aïkido, tout simplement, au départ? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce sport, cette activité, comment on le définit, tout ça? Alors, dis-moi.
Alors, avant que Lionel réponde, je vais vous couper la parole, je m'excuse. Pour ceux qui auraient vaguement entendu parler de l'aïkido, il y a un aspect visuel qui est assez reconnaissable des pratiquants de l'aïkido, du moins de certains d'entre eux, au niveau de la tenue. Ils ont... Tu peux nous dire, Lionel, au niveau de la tenue, comment on les reconnaît?
Le hakama.
Le hakama qui visuellement se présente en haut, donc, en blanc et en bas.
Hakama, donc c'est un pantalon large, noir, ouais, ou bleu. Et c'est vraiment l'habit traditionnel au Japon.
Voilà.
Voilà.
Donc la tenue d'art martial avec une partie haute blanche et une partie basse pantalon noir, c'est typiquement les pratiquants d'aïkido.
Oui, on met ça.
Très
parce
bien.
Qu'on étudie un art oriental.
Eh bien, je t'écoute. Vas-y.
Donc voilà, ben, c'est vrai que tout le monde a connu les films d'arts martiaux, mais c'est vrai, j'ai commencé à trouver, j'ai fait du karaté étant jeune, mais c'est vrai que j'ai commencé à trouver quelque chose qui me correspondait quand j'ai découvert le Steven Seagal, l'acteur, avec ses films.
Steven Seagal, voilà. Quel rapport avec l'aïkido?
Incroyable, alors là tu me stupéfies là.
Donc voilà.
Va falloir te rattraper parce que Steven Seagal quand même. Allez, explique-toi.
Non mais voilà, j'étais influencé par ça et je me suis dit c'est l'aïkido que je veux faire.
Ah, parce qu'il faisait de l'aïkido dans ses films?
C'était le seul acteur américain en gros qu'on... On n'avait pas d'autres acteurs qui faisaient de l'aïkido à la télévision.
D'accord.
Ça n'existait pas.
D'accord, ok.
C'est comme ça que j'ai découvert l'aïkido grâce à la télévision.
D'accord, t'avais quel âge à peu près?
Une vingtaine d'années, et le premier film de Steven Seagal, c'est Nico.
D'accord, je ne l'ai jamais vu, hein, je te vois. Okay. Très bien. Donc ça t'a motivé pour aller voir de plus près cette discipline que tu découvrais à cette occasion.
Voilà, j'ai attendu d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir pratiquer, mais ça m'a donné envie. Je pense que l'aïkido, c'est plus un état d'esprit, c'est un art de paix. Mm-hmm. Étant donné que j'ai connu le karaté étant jeune, j'ai compris plus tard que ce n'était pas pour moi.
Ouais. Voilà, pourquoi?
Parce que c'est plus... ça ne me correspondait pas.
Ouais.
Sur le plan... le caractère agressif. Enfin voilà, c'était pas moi.
Il y avait une agressivité plus directe qui ne te correspondait pas.
Je trouvais que la réponse était un peu trop violente par rapport à
d'accord.
ce qu'il y avait en face, par rapport à.
Ok. Mais justement, c'est quoi la différence avec l'aïkido alors ?
L'aïkido, c'est beaucoup plus subtil. C'est accessible à tous. C'est un art de paix, donc vous êtes victorieux parce qu'on est dans le principe de non-résistance et on utilise la force de l'autre.
D'accord.
On va dans le sens de la force de l'autre. On appelle ça Kino Nagare.
Oui.
Et voilà. Et on amplifie ce déséquilibre, on retourne la force contre lui. Et
d'accord.
C'est un peu comme le coup de poing dans le mur. Plus vous frappez fort, plus vous allez vous faire mal.
Ok, donc il ne s'agit pas de porter des coups comme en karaté, il s'agit quelque part d'accueillir l'agression pour quelque part faire trébucher l'adversaire, si je simplifie à l'extrême.
Oui, c'est ça. Une technique réussie peut demander une fraction de seconde si elle est réussie. Il n'y a pas de combat, on n'est pas dans le conflit, on va dans le sens de l'agression.
Alors, d'accord. Je vais mettre mon grain de sel, là. Historiquement parlant, ça débute quand, l'aïkido ? Est-ce que c'est un art martial récent ? Est-ce que ça a un siècle, moins d'un siècle, plus d'un siècle ?
Donc,
qu'est-ce qu'on peut en dire, Lionel ?
Donc, l'aïkido a commencé grâce au fondateur Moriyuki Ba.
Et ça remonte à quelle période ?
C'était 1883, je crois.
D'accord. Donc, fin 19e siècle.
1969. Puisque le fondateur est décédé en 1969.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc
il est né fin 19e, donc voilà. Il a dû avoir 20 ans au début du 20e siècle à peu près.
Il a connu les deux guerres, il a étudié donc avec des maîtres, il a fait l'aïkijutsu, le jiu-jutsu, enfin voilà, ces choses-là.
D'accord.
Et c'est vrai que dans un art martial, c'est de mettre hors de combat le plus rapidement possible. C'est vraiment le côté efficacité.
D'accord, l'art martial est un art qui va à l'efficacité, le but est de mettre hors de combat l'adversaire.
Voilà, c'était un militaire qui était vraiment reconnu.
Le fondateur était un militaire ?
Oui.
D'accord, donc il était dans l'armée japonaise ?
Voilà.
Et il pratiquait ses arts martiaux dans ce cadre-là alors ?
Il enseignait à d'autres militaires, parce que très vite il a eu une notoriété.
Ouais.
Il a appris avec des maîtres, et du coup, comme il était très fort dans ce qu'il faisait... Il a eu une certaine notoriété, il a eu des élèves et il enseignait à d'autres militaires cet art.
Et à partir de quel moment ça a traversé, je dirais, l'archipel japonais ? À partir de quel moment ça a commencé à toucher d'autres zones géographiques ? L'Europe, l'Amérique ou que sais-je ?
Tu vas un peu vite en besogne. Avant de voir quand est-ce que ça part, déjà, peux-tu nous rappeler le nom du fondateur en question ?
Donc c'est Moriyuki Ba.
Maître Ushiba.
Voilà.
Ouais, ok, d'accord. Et il a d'abord créé cette discipline qu'il a appelée Aikido dès les années 20, dès cette époque-là ?
Non. Beaucoup plus tard, dans les années 1940 à peu près.
D'accord, c'est dans les années 40 qu'elle s'est constituée avec le nom d'Aikido.
Il a pris une autre voie. Il a appris des techniques de combat qui étaient pas mal et efficaces martialement. Et l'aïkido, c'est plus un art de paix et la construction de l'homme.
Ça veut dire quelque part qu'il est peut-être passé d'une recherche initiale d'efficacité telle que tu l'avais décrite, avec des arts martiaux japonais, on en parlera plus tard, d'autres arts martiaux qui sont de fait conçus pour cette efficacité. Il a petit à petit évolué vers... une recherche peut-être qui lui était personnelle, comme tu dis, d'un art de paix. Et c'est peut-être pour ça que ça lui a pris un peu toutes ces années, ces décennies en quelque sorte.
C'est ça, il a fallu quand même pas mal de temps avant de créer cet art de paix, l'aïkido.
Ouais.
Et c'est vrai que l'aïkido, c'est quand même... c'est une dérive des samouraïs.
C'est-à-dire ?
Qui, les samouraïs étaient des guerriers rompus à toute technique de combat.
Oui.
Ou quand ils sortaient leur sabre, c'était pour se protéger.
D'accord.
Samouraï, ça veut dire servir.
Ok. Et donc, ça s'est répandu dans tout le Japon. Ça a eu un premier succès dans tout le Japon à peu près à cette époque-là, dans les années 40, ou encore un peu plus tard.
Et donc...
L'aïkido, en tant que discipline.
L'aïkido, donc, le fondateur a beaucoup fait, beaucoup œuvré pour que ça soit connu dans le monde. Donc, il a envoyé ses meilleurs disciples, enfin, ses élèves.
À quelle période, donc ?
Donc, on dit des ushidushi.
Ushidushi.
Je suis un ushidushi de maître Alain Perrache. En fait, on est des élèves du maître.
Oui, okay.
Les gens viennent chercher l'enseignement d'un maître. Quand le maître n'est pas là, c'est les élèves qui remplacent le maître.
Voilà. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est que si l'aïkido, avant de s'exporter, s'est d'abord imposé au Japon, ou si ça restait une discipline mineure par rapport aux disciplines dominantes que sont le judo ou le karaté, par exemple. C'était la question gênante qui était cachée derrière ma demande.
Ce que je peux dire, c'est que l'aïkido, au travers des autres dojos, au dojo, hein, où il y a du karaté, du judo, tout ça.
Oui.
L'idée, c'était de vraiment faire découvrir cet art japonais.
Mm.
Voilà. Et du coup, petit à petit, l'aïkido s'est répandu comme ça.
D'accord.
Par rapport à ses meilleurs élèves.
Et pour revenir à la question de Franck, je m'excuse, hein, tu vois, je t'ai bloqué
oui,
jusqu'à maintenant.
Surprise, surprise, ouais,
donc ça s'est répandu à travers ses disciples à l'étranger, à peu près à quelle période? Années 50, années 60?
Je pense dans les années 50, 60.
Ouais, c'est à peu près cette
époque-là. Un petit peu avant sa mort.
Hein. Mmh, d'accord, très bien. Et c'est là qu'intervient, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou plus tard, donc ton maître à toi, donc le fameux Alain Perrache qu'on a déjà évoqué.
Oui.
Si tu peux nous en dire deux mots justement.
Peut-être qu'on en reparle plus tard. Oui, je pense.
Okay,
alors, revenons déjà à des explications basiques. Aïkido, est-ce que ça a une signification précise pour les auditeurs? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, bien sûr. Donc Aïkido, Aï c'est l'harmonie, Ki l'énergie, Do la voix, donc Do le chemin en fait. Dans un Aïkido traditionnel, donc moi j'étudie un art traditionnel,
oui.
On parle de art, donc on est dans l'étude d'un art en fait, avec un maître, c'est vrai que l'habit est très important parce qu'on met le hakama, mais ce n'est pas un grade. Ça fait partie de l'habit traditionnel. Si vous êtes au Japon, il faut mettre le hakama, sinon ça veut dire que vous êtes tout nu.
D'accord. Il y a une signification symbolique de cet habit, alors, de ce hakama.
Oui. Donc, quand vous commencez l'aïkido traditionnel, vous pouvez très bien mettre le hakama dès le premier cours.
Simplement, alors je ne sais pas si c'est une invention occidentale, mais le fait qu'il soit blanc pour les débutants, puis noir pour les confirmés, est-ce que c'est une invention occidentale ou est-ce que c'était dès l'époque, dès l'origine comme ça?
Je pense qu'il y a eu après, par la suite, des déviances.
D'accord. Ok.
Voilà. Ou au temps du fondateur, il n'y avait pas de graduation. On est dans l'étude d'un art, donc on ne peut pas. Il faut savoir qu'au Japon, la ceinture noire n'existe pas.
Oui,
donc,
oui.
Voilà.
Oui. Donc, même dans les autres arts martiaux, tu veux dire? Ou juste, tu parles juste de l'aïkido?
Non, je parle que de l'aïkido.
Juste de l'aïkido, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des ceintures noires dans certains pratiquants d'aïkido?
Oui. Il y a d'autres fédérations. Il y a d'autres.
Donc il y a d'autres. Il y a diverses conceptions de l'aïkido.
Il y a
alors.
Diverses philosophies,
voilà,
si on peut
ça.
Dire.
Alors,
revenons-en aussi, encore une fois, là, y a-t-il des règles précises au niveau, par exemple, de la taille? Alors, est-ce qu'on dit déjà combat? Est-ce que donc dans le dojo, on parle de, je sais pas moi, on parle de ring au niveau de la boxe? Là, on parle de quoi? De dojo, c'est tout?
Donc, en fait, on fait de l'aïkido dans un dojo. Dojo veut dire donc maison. Les gens viennent chercher l'enseignement d'un maître.
D'accord.
Et on étudie une voie. Et la plus haute autorité, c'est le maître. Il n'y a pas plusieurs professeurs. C'est un maître, un dojo. Et très vite, on sait où est notre place.
Mm-hmm.
Donc on a toujours les anciens qui sont vers la porte, qui sont là pour protéger le dojo au cas où éventuellement il y aurait une attaque.
D'éventuelles agressions.
Voilà, chacun sa place. Et on sait très vite aussi que les anciens doivent aider les débutants.
D'accord, ils participent à la transmission.
On ne doit jamais laisser un débutant tout seul.
D'accord.
Parce qu'il pourrait se blesser, etc. Donc on a besoin de l'aider, de le guider.
Ils ne se contentent pas de pratiquer entre eux. On attend des anciens qu'ils participent, qu'ils aident et qu'ils enseignent un petit peu quelque part aux débutants.
Alors justement, dans ta philosophie, Lionel, et celle d'Alain Perrache, a priori, on ne parle pas de combat, mais même pas de sport. On parle de quoi alors? De relations philosophiques de...
Donc, on est dans l'étude d'un art.
C'est l'étude d'un art.
Voilà, donc c'est plus dans le côté sportif, classification sportive. On est vraiment dans l'étude d'un art.
Donc, il n'y a pas de notion de compétition.
Il n'y a pas de notion de compétition. C'est accessible à tous.
Ouais.
C'est mixte, mes femmes, les enfants à partir de 8 ans, jusqu'à pas d'âge. Ça ne demande pas de compétences physiques. C'est accessible à tous, mais c'est important. Au Japon, il faut savoir que les gens choisissent leur enseignement, choisissent leur maître. C'est la démarche, comme on choisirait nos amis.
Ouais.
Voilà, ça demande un certain jugement.
Bah oui, il ne faut pas se tromper de maître, il faut prendre le bon, il faut prendre un moyen, un très bon, un médiocre.
Ce que le fondateur, je pense, a étudié avec des grands maîtres au Japon.
Ah donc, cette forme d'occidentalisation, elle est faite pour quoi, en fait?
Comment tu d'abord, peux l'expliquer? D'abord, elle était faite par la logique du sport, la logique du sport, de la compétition. C'est un peu ça, en fait, l'occidentalisation. Je dis une bêtise ou c'est ça?
En fait, c'est contre-culture, ce qu'on fait, nous, en Aikido. Donc, nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous enrichit.
Ouais.
Mais nous, occidentaux, on n'a pas la même vision que les orientaux, en gros. On fait les choses à l'inverse. Et en gros, voilà, occidentaux, nous, on est plus dans le détail et on veut très vite atteindre un objectif, alors que les orientaux, eux, ils partent plus du global. On fait globalement les choses et après, on va vers le détail.
D'où cette radicalité de l'aikido, du moins dans la voie avec laquelle tu la pratiques, d'Alain Perrache, qui est d'affirmer non, ce n'est pas un sport de combat, ce n'est pas un sport de compétition, c'est un art martial.
Oui, parce qu'un art, on ne peut pas mesurer un art. Souvent, les gens dans notre culture aiment bien mesurer un art, savoir quelle ceinture on est, alors que nous, en aikido, la voie est infinie. On pratique quelque chose qu'on aime et on sait que cette voie-là est infinie, on ne peut pas graduer quelque chose. Un art, ce n'est pas quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui s'apprécie.
D'accord. Pour information, le fondateur de l'aïkido était lui-même, pas influencé, mais se revendiquait un petit peu de la religion, je ne sais pas si on peut parler de religion, de culture shintoïste, si un peu de religion. La religion shintoïste, qui est une religion japonaise qu'on pourrait comparer à l'animisme, c'est-à-dire qui considère que la nature, qu'il y a des puissances dans la nature, d'accord, et on appelle ces puissances les kami, d'accord, et donc le shintoïsme considère que la nature est pleine de ces kami, de ces puissances, et c'est une vision de l'homme inséré dans la nature, en quelque sorte, qui fait partie de la nature. C'est un peu quelque chose, une base fondatrice un peu de ce qu'était le fondateur.
Le fondateur, la différence avec nous, les orientaux, c'est qu'eux, ils regardent la nature. La nature, c'est leur maître. Et ils s'en inspirent et ils en tirent un enseignement.
Ouais.
Ça veut dire, en gros, la vision orientale, c'est qu'ils regardent le soleil où il se lève. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Ça, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être étudié parce qu'on le retrouvera tout le temps dans tout ce qu'on fait. Donc, ça a du sens.
Tandis qu'en Occident, on a plutôt tendance à vouloir la domestiquer et la marchandiser, la nature. C'est une conception radicalement opposée.
On ne sait même pas la regarder et en tirer les leçons.
Très bien, très bien.
Alors nous allons, justement, en rapport avec ce thème, lancer un peu de musique traditionnelle japonaise à base de koto, qui est, vous allez l'entendre, en fait, un instrument à cordes typique de la musique du Japon.
C'est parti.
Poker Menteur, vous êtes bien sur Radio-Canada 100.9. Vous venez d'écouter de la musique traditionnelle japonaise qu'on appelle du koto, un instrument à cordes absolument magnifique. Et c'est très reposant, Patrick.
Tout à fait, tout à fait.
Alors Lionel, on va parler maintenant de l'aïkido à Villefranche. Donc tu fais partie donc, de... Alors on ne dit pas association, on va dire quoi? Alors du club de Villefranche d'aïkido, dis-moi, dis-nous.
Non, c'est bien une association. D'accord. Association, mais c'est vrai qu'on ne voulait pas... comment dirais-je, que ça soit comme un sport. Donc, quand on dit club, on fait tout de suite référence au sport.
Club sportif, oui, voilà, tout à fait. C'est les termes qui nous viennent à l'esprit.
L'aïkido, donc ça ne soit pas associé à un sport, ce que nous, occidentaux, on connaît très bien le sport. Et donc, ça s'appelle aïkido culturel du Québec.
D'accord.
Donc, mais voilà, au niveau des statuts, il y a bien un président, un secrétaire, un comptable,
etc. Oui, ça marche comme une association avec un président, un trésorier.
Est-ce que tu peux préalablement nous indiquer...
Dans l'aïkido traditionnel.
D'accord.
Est-ce que tu peux préalablement nous indiquer comment tu as commencé? Parce que je crois que tu as commencé d'abord à Lyon. On t'écoute.
Oui, donc tout à fait. J'ai commencé l'aïkido en 2005. Voilà, et du coup, je suis allé dans un dojo. Il y avait plusieurs professeurs et très vite, je me suis rendu compte des problèmes que j'avais niveau pédagogie, l'ambiance. J'ai eu pas mal de soucis là-dessus. Et niveau progression, c'était quand même pas mal difficile parce qu'on apprend beaucoup de techniques, beaucoup de chutes.
Oui.
Et aujourd'hui, je sais maintenant, l'aïkido, enfin les chutes, c'est pas un objectif, c'est juste de se mettre en sécurité. Donc voilà, c'est...
C'était quoi l'origine de ton malaise, hein?
Donc c'était plus... Bah, de... En fait, les gens, souvent, ils arrêtent parce qu'ils sont ou en situation d'échec,
oui,
ou ils sont dans une pratique traumatisante.
Ah bon?
Donc j'ai connu ces deux choses où les anciens Akama donc, s'entraînent entre eux, oui, et les débutants s'entraînent entre eux, ce qui est l'inverse...
Oui, de ce qu'on disait tout à l'heure, de la philosophie.
De ce que je fais à Villefranche,
ouais.
Et c'est une chance justement d'avoir fait la rencontre. J'ai découvert ça donc à Villefranche, le maître Alain Perrache, qui a fondé l'EPA ISTA.
Donc tu ne te sentais pas bien et tu découvres le club de Villefranche, qui n'est pas un club mais une association, comme
voilà,
tu viens de le dire, dirigé par Alain Perrache.
Voilà,
alors
ça.
Vas-y, on t'écoute, explique-nous un peu de quoi il s'agit.
Donc, Alain Perrache, il a débuté l'aïkido donc, dès l'âge de 14 ans. Et quelques années plus tard, il a créé son propre dojo. Très vite passionné, il fréquente les élèves de maître Ushiba. Il a connu Nakazano, Noro, Tada. Mais ça a pris tout son sens pour lui quand il a fait la rencontre de maître Tamura.
Okay, c'est dans les années 70, ça.
Et il a étudié...
Oui, c'est ça. C'est dans les années 70.
Donc voilà. Et du coup, il a étudié donc, avec une trentaine d'années le maître Tamura. Il est responsable technique national. Donc lui, maître Alain Perrache, étant responsable technique national, il créa ce qui n'existe pas en Europe d'aïkido traditionnel international, l'EPA ISTA, qui regroupe aujourd'hui des milliers de pratiquants. L'enseignant d'Alain Perrache étant d'une rare qualité. Il est sollicité dans toute la France. Et il anime aussi des stages de 200 à 300 personnes, et dans de nombreux pays comme la Belgique, le Canada, Hollande, Italie, Israël, La Réunion.
Donc maintenant, il a une reconnaissance internationale alors?
Complètement.
Et au départ, il venait de la région de Lyon donc?
C'est un Caladois.
C'est un Caladois en plus, même encore plus précis.
Oui.
Il est de Villefranche alors?
Oui, et c'est comme ça que j'ai connu donc, maître Alain Perrache.
Donc je crois qu'il a un club à Villefranche et un club à Lyon, hein, si je dis pas de bêtises.
Pas enfin, club, hein, club, ça fait référence.
Une association.
Sport,
une association, donc, une association. Ah là là,
on va tirer les oreilles.
On peut dire dojo. Dojo.
Alors, il a un dojo à Lyon et un dojo à Villefranche.
Lyon,
voilà,
on
va rester là.
Enfin,
Tassin, oui, c'est
Tassin,
ça.
Lyon, donc Tassin, Villefranche, Bourg-en-Bresse. Et il faut savoir aussi que et c'est là où on pratique, enfin, on progresse très vite.
Oui.
Parce que c'est la voie de l'autonomie, son école. Où il y a toujours une différence de potentiel, toujours une différence de niveau. C'est toujours quelqu'un de plus ancien qui apprend à quelqu'un de moins ancien.
Il y a vraiment cet aspect de transmission que tu as expliqué tout à l'heure qui est fondamental.
Le premier cours, vous êtes débutant, le premier cours.
Oui.
Et le deuxième cours, vous êtes plus débutant et vous commencez déjà à enseigner à l'autre. Et c'est là où j'ai commencé à progresser, quand on m'a dit, pour apprendre, il faut enseigner.
D'accord, d'accord.
Alors une question toute simple, c'est mixte. Est-ce qu'il y a homme, femme oui, parce que c'est une question toute bête. C'est, hein, mais...
c'est la différence d'un sport où, dans le sport, on range les gens par catégorie. Les hommes d'un côté, les femmes, poids lourd, poids léger. L'aïkido, c'est... donc, il y a des cours enfants, des cours adultes, adolescents. Et donc, nous, sans cesse, on doit s'adapter, en fait. On travaille avec tout le monde. Ça vous oblige à vous adapter.
Ouais.
Ce qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre. Mmh. Et c'est enrichissant.
Mais quelle est la proportion de femmes par rapport au nombre d'hommes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Ou est-ce que c'est égalité?
On avait 30%, non? Qu'est-ce que tu en penses?
Je ne sais pas.
Allez.
Je ne sais pas trop.
Déjà, à Villefranche, à peu près.
Je dirais qu'il manque un peu des femmes.
Bon, il y a plus d'hommes que de femmes.
Parce que l'aïkido, aujourd'hui, pour les femmes, c'est très bien. Mmh. Vu qu'on ne se sert pas de la force,
oui.
Où souvent l'homme peut avoir un avantage par rapport à une femme, parce que quelqu'un qui ne fait pas d'arts martiaux, dès qu'il y a une attaque, il va s'opposer à l'autre. Et donc là, c'est toujours la loi du plus fort, c'est le sport, c'est la dualité, et il y aura toujours plus fort que vous.
Ok. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui auraient vu des images, hein, d'accord, on en voit de partout entre Internet et la télé, on repère bien l'aïkido à travers souvent des logiques de techniques de clé de bras, de torsion de bras, qui déséquilibrent l'adversaire, qui le font chuter. Mais l'aïkido regroupe aussi une pratique complémentaire qui est avec un bâton également.
Oui, tout à fait. L'aïkido, on apprend, donc on fait de l'aïkido avec des armes.
Comment on l'appelle le bâton? C'est pas le boken?
Le boken, voilà. Donc on appelle ça de l'aikiken, mm-hmm. ou de l'aikijo, donc de l'aïkido avec un jo. Et donc du coup, ça fait partie de la pratique. On fait tout le temps de l'aïkido, que ce soit avec des armes ou sans armes. Et c'est les outils qu'on a à notre disposition. Mm-hmm. On a besoin d'une arme, on prend une arme. On n'a pas besoin, on ne prend pas d'arme. Et derrière, il y a un enseignement.
Ouais, d'accord.
Et, voilà, donc c'est quelque chose qui a du sens. Et ça nous permet de nous corriger.
Et l'aïkido, on le voit aussi. Moi, je me réfère à des images. Moi, je n'ai jamais pratiqué l'aïkido. Hein. On le voit aussi. Ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est pratiqué debout, mais parfois, c'est pratiqué à genoux. Oui. On voit des techniques d'attaque et de défense à genoux, en quelque sorte, qui sont les mêmes que debout, mais pratiquées à genoux, c'est très étonnant.
Oui, tout à fait. C'est le suariwaza. Donc, on travaille à genoux, comme on peut travailler debout. En fait, on fait toujours la même chose, et non pas des catalogues d'images, où on s'aperçoit que, peu importe la situation, on est toujours en train de faire la même chose. C'est toujours le même fonctionnement, avec une arme ou sans une arme, et on n'est pas dans une collection de catalogues d'images, où l'aïkido, ce que j'ai connu moi à Lyon, on est dans l'objectif, on apprend des techniques.
Ouais, c'est ça.
Un catalogue de techniques.
On essaie d'accumuler le plus grand nombre de techniques possible.
On se croit savant et on croit connaître des choses.
Dans une optique quantitative quelque part.
Oui, et c'est complètement à l'inverse du fondateur où vous apprenez une technique. Quand vous étudiez une technique, vous les étudiez toutes. Parce que c'est plus basé sur des bases et sur des choses qui ont du sens.
D'accord. Alors, tu disais donc qu'Alain Perrache avait créé l'EPA, je ne sais plus trop quoi, vas-y,
donc,
cette
oui,
association. Ouais. Est-ce que c'est une association nationale ou internationale? C'est quoi? Une fédération, une association, c'est quoi?
Donc, c'est une fédération d'aïkido.
Et donc, elle regroupe d'autres pratiquants qui se retrouvent dans cette philosophie?
Donc oui, en fait, maître Alain Perrache, ce que je pourrais dire, c'est que... il a créé l'EPA ISTA, qui veut dire École Promotion Aïkido, donc Europe. Mm-hmm. ISTA, International Shoot Traditionnel Aïkido, donc dans le monde.
D'accord.
Et étant en désaccord avec ce qui se faisait avant, où on faisait de l'aïkido...
De combat occidental, on va dire.
Non, on gérait l'aïkido comme un sport.
Ouais, voilà. Ouais.
Et donc, Alain Perrache, avec tout son parcours, étant en désaccord avec tout ça, et a créé son...
Et ça, c'est dans les années 80 qu'il a créé cette fédération?
Fédération, association, voilà, donc EPA, ISTA, dans les années...
Je crois que c'est à peu près dans les années 80. Et est-ce qu'il y a des partenariats? Est-ce que vous avez des échanges, des rencontres avec d'autres pratiquants membres de cette fédération?
Oui, tout à fait. Nous avons à notre disposition des stages. Maître Alain Perrache étant reconnu de par son enseignement Et du coup, il anime des stages tous les week-ends dans toute la France et en dehors de la France, et les Tom-Tom. Et ça nous permet de nous apercevoir, nous situer un peu dans la pratique.
Oui, bien sûr.
Et c'est une ouverture d'esprit parce qu'on on a toujours une chose commune qui est l'aïkido, donc une passion.
Oui.
Et ça nous permet de voir à l'impérage. Et ça nous permet aussi de nous situer dans la pratique, de voir nous sortir un peu de notre zone de confort où au dojo on étudie toujours avec les mêmes personnes.
Bien sûr.
Alors,
éventuellement, malgré tout, on peut peut-être essayer de citer un petit peu quelles sont les autres grandes, fédérations ou les autres pratiques de l'aïkido présentes en France alternatives, donc celles qui sont plutôt dans une logique sportive.
Oui,
sur Villefranche, par exemple, il y a d'autres clubs, je pense.
Oui, tout à fait.
Qui ne sont pas dans la philosophie d'Alain Perrache, mais plus dans la philosophie classique, sportive.
Il y a énormément de dojos. C'est vrai que j'ai connu Alain Perrache quand j'ai déménagé sur Villefranche.
Oui.
À Lyon, il y avait beaucoup de dojos, donc je ne connaissais pas le dojo PA ISTA. Mais c'est vrai qu'il y a deux fédérations, FFAB et FF3A, qui regroupent à peu près 30 000 licenciés. Les deux fédérations, 60 000 licenciés en France.
Mais est-ce qu'ils organisent des compétitions, ces fédérations ?
Oui, l'aïkido, c'est une dérive du fondateur, où justement, à la mort du fondateur, étant influencé l'aïkido dans le dojo où on pratique, au même endroit où il y a du karaté,
voilà,
du judo,
que les encombrants cousins que sont le karaté et le judo.
Du coup, qui sont des sports martiaux.
Voilà.
Et que l'aïkido, qui est l'inverse d'un sport, c'est vrai que c'est...
Ceux-là ont subi l'influence du judo et du karaté et sont allés plutôt vers une pratique sportive de compétition.
C'est le fondateur du judo qui a justement mis ce système de graduation, de grade. Il faut savoir qu'au Japon, la ceinture noire n'existe pas.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Nous, occidentaux, on rêve d'être ceinture noire. C'est l'objectif, on va dire.
Ouais.
Mais c'est le niveau de Shodan, c'est le niveau débutant.
D'accord. Ouais.
Si vous étiez...
Et est-ce qu'il y a des bonnes relations entre les deux fédérations, enfin les deux philosophies, en fait, de l'aïkido? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous ne tapez pas dessus, entre guillemets?
Non, à partir du moment où on est inscrit à l'EPA ISTA, on peut faire dans toute l'année des stages, mais on sera toujours dans notre fédération parce qu'on a une licence.
D'accord.
Et on ne peut pas...
Les deux sont assez étanches, en quelque sorte. Il n'y a pas trop de communication entre les deux.
Chacun...
Mais il y a un respect quand même mutuel des deux philosophies, ou est-ce que c'est plutôt tendu? Parce que... Enfin bon, c'est une question peut-être un peu embarrassante.
Politiquement embarrassante.
Oui.
Voilà, aujourd'hui, la société, vous avez beaucoup de choix. Il faut faire le tri, comme dirait Alain. Et si vous n'êtes pas capable de faire le tri, tant pis pour vous. Voilà, donc au Japon, on choisit son maître, on choisit son enseignement, en gros. C'est ça la progression, tout part de là.
Alors, justement, dans cette optique, on va écouter une interview d'Alain Perrache, le grand maître que tu nous as présenté, et qui donc intervient ici à Toulouse, l'ouverture, je crois, d'un dojo de Toulouse en 2015, avec ensuite un point de vue de Daniel Anaguet sur le maître Alain Perrache.
Bonjour Alain Perrache. Un maître en dojo, c'est la phrase emblématique de votre école, le PA ISTA. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu?
Un maître en dojo, c'est... Au Japon, il n'existe pas de fédération. On a des dojos. Et un dojo, c'est comme chez nous, un maçon, un boulanger, un artisan. Un artisan qui pratique une technique martiale et qui vit de cette technique martiale. Et donc, il a effectivement... il est le patron de son entreprise. Et il a des employés, parfois il a des clients, et ça se passe exactement comme un commerce chez nous où l'artisan boulanger produit du pain de bonne qualité, et c'est pour ça qu'il a des clients. Un professeur d'aïkido, quand il fait ce métier-là, il est dans son dojo et on vient chercher des cours de qualité, un rapport qualité-prix.
Quel est votre maître à vous, Alain Perrache?
On a connu à peu près tous les élèves du fondateur de l'aïkido. Et c'est vraiment quand Metamora est arrivé que je me suis consacré réellement à la pratique de l'aïkido et que j'ai vraiment appris l'aïkido. Et sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui.
En quoi la pratique de l'aïkido traditionnelle diffère de la pratique du judo, par exemple, aujourd'hui ?
Ah, ben, à plein de niveaux. C'est-à-dire que le judo est un sport. Donc on a affaire à un sport alors que l'aïkido est un art. Il n'y a pas de compétition. On parle en Europe et en France de sport d'opposition, la salle de sport d'opposition en parlant d'un dojo. En aïkido, on ne s'oppose pas. On ne va surtout pas s'opposer. On va faire ce qu'on appelle kinonagare, aller dans le sens de l'agression pour retourner l'agression contre l'autre. L'opposition, c'est du non-aïkido. Donc déjà, on ne combat pas. C'est aussi ce qu'a dit, c'est le message du fondateur de l'aïkido, qui a dit que l'aïkido est exactement l'inverse d'un sport. C'est pour ça que les premières associations et les premières écoles d'aïkido en Europe se sont appelées culturelles. Parce qu'à aucun moment, on voulait que l'on puisse nous assimiler à un sport quelconque. Donc on s'appelait l'association culturelle française d'aïkido, l'association culturelle belge d'aïkido, etc. Et on était regroupés au sein de l'association culturelle européenne d'aïkido. À aucun moment on voulait être assimilé à un sport. Tout simplement parce qu'on travaille dans des salles comme aujourd'hui où il y a des sports martiaux, où il y a du judo, du karaté, où là l'objectif est complètement différent. C'est-à-dire qu'on fait un sport comme n'importe quel sport occidental où on veut des champions, on veut savoir qui est le plus fort pour une performance bien normalisée de façon à ce que tout le monde dans les mêmes conditions, on sache qui est le plus fort. D'où la triche, d'où le dopage, d'où etc., etc. Alors que dans un art, on n'en a rien à faire de savoir qui est le plus fort. On veut simplement pratiquer cet art pour s'enrichir. C'est quelque chose de personnel. On sait que cette voie sera infinie, on n'arrivera jamais au bout, qu'on l'étudiera toute notre vie. Alors que dans le sport, un spectateur, même s'il n'a jamais pratiqué, comprend les règles du sport. Dans un art, si vous n'avez jamais pratiqué, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien du tout.
On voit aujourd'hui en aïkido des chutes, par exemple, qui peuvent être très spectaculaires. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va débuter dans la pratique de cet art est obligé de faire ce même genre de mouvement ?
Non, pas du tout, parce que souvent, les chutes spectaculaires, c'est des gens qui se font plaisir, qui font un spectacle. La chute en aïkido n'est pas un objectif, c'est une esquive. Posez-vous la question, est-ce que vous feriez la même chute sur du béton ? Voilà, donc en général, pas. Donc, vous savez que vous avez affaire à un spectacle, à un numéro de cinéma pour impressionner un public qui n'y connaît rien. Et le but de la chute en aïkido, c'est de vous préserver. Donc la chute doit être agréable, facile à faire, en toutes circonstances, et vous permettre de vous mettre en sécurité. Donc l'aïkido, dans un premier temps, on met les gens en sécurité, on les rassure, de façon à ce qu'ils puissent apprendre. Parce que tant qu'ils ont peur, tant qu'ils sont inquiets, ils ne peuvent pas apprendre, ils sont uniquement préoccupés par leur sécurité. Donc on va leur apprendre à se protéger.
Est-ce que les débutants sont amenés à pratiquer avec les plus anciens, ceux qui ont plus d'expérience ?
Ben, tout à fait. Étant donné que en aïkido, il n'existe pas de classe de débutants, de cours de débutants, de cours d'anciens, de cours de professeurs, de cours d'école des cadres ou je ne sais quel comportement et attitude sportive, ça n'existe pas. Tout simplement parce que dans la tradition orientale, les choses semblables, c'est la mort. Donc on va toujours mettre en, une différence de potentiel. Il y a toujours quelqu'un de plus ancien qui apprend quelqu'un de moins ancien. D'accord. Et quand il y a une différence de potentiel, eh bien à ce moment-là, il y a la vie. Donc en médecine orientale, c'est la même chose. On dit que c'est le déséquilibre entre les six qualités du ciel et les cinq éléments de la terre qui créent la vie sur Terre. Si c'était 5-5 ou 6-6, ben, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait rien du tout, ça serait la mort. D'accord. Donc c'est une approche complètement différente de notre culture, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. C'est parce qu'on a deux images de nous-mêmes au travers de deux cultures que l'on pratique l'aïkido.
Bonjour Denis Renagué, vous êtes à l'origine de cette rencontre d'aïkido traditionnel et vous êtes le fondateur de plusieurs dojos d'aïkido dans Toulouse et sa région. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui ?
Bonjour, parce que je suis élève dans l'MPRH et à ce titre, pour mes élèves et les pratiquants de toute la région, pouvoir bénéficier de ces enseignements est un immense privilège. Maître Perrache est connu et reconnu pour le respect du modèle oriental en droite ligne du fondateur de l'aïkido. Le véritable modèle oriental, c'est l'unité d'un même enseignement, dont le leitmotiv et ne rien changer, ne rien modifier, ne rien transformer. C'est cette unité qui permet au pratiquant de trouver l'unité en lui-même. C'est la base de la philosophie orientale.
Nous venons d'écouter donc une interview d'Alain Perrache, le grand maître, et de Daniel Anaguet. Et maintenant, deuxième pause musicale, nous allons écouter encore un petit peu donc, de koto, l'instrument à cordes. Poker-menteur.
Poker-menteur.
Galade.
Vous venez d'écouter donc du koto, instrument à cordes traditionnel. Oui, donc pour les vacances, l'émission sur l'aïkido. Poker-menteur. Alors, Patrick, oui. On va parler un petit peu d'autres arts martiaux et parle-nous un peu de zénitude, d'arzen. Je t'écoute, nous t'écoutons.
L'arzen, donc ça, c'est une invention made in France, donc très bien, tu vas en garder le copyright parce que j'ai rien à te dire là-dessus. Mais on va essayer d'élargir un peu la présentation à un contexte global de l'ensemble des arts martiaux qu'on peut connaître en quelque sorte, hein, vu de chez nous, vu d'Occident. Quelque part, on pourrait remonter vers le grand frère, le grand cousin, le grand voisin du Japon, qui est la Chine, pour venir à ce que sont un peu les deux grands arts martiaux chinois qui ont ensuite un petit peu fait exemple. Je ne vais pas dire essaimé, mais fait exemple. Alors, le premier que j'ai en tête, c'est celui qui a été en fait développé par les moines Shaolin, qui eux-mêmes étaient issus donc, de l'arrivée de la tradition du bouddhisme en Chine. Et eux ont élaboré ce qu'on appelle en Occident le Kung-Fu. D'accord ? Donc, un art martial qu'on appelle dans la terminologie chinoise, quelque part, des arts martiaux externes, c'est-à-dire un art martial fondé sur la puissance physique, la force, ok. Bien plus tard, et dans une autre philosophie, qui est cette fois la philosophie du taoïsme, d'accord, qui est la deuxième grande philosophie chinoise, avant le bouddhisme. Elle était présente avant le bouddhisme, qui a été concurrencée par le bouddhisme, mais les deux sont présentes en Chine. Bien plus tard est arrivée une pratique dont on a parlé il y a un an, dans notre émission de l'été dernier, le tai chi chuan. Et le tai chi, ce qui le différencie massivement du kung fu, c'est il est considéré comme étant un art martial interne. Interne, pourquoi ? Mais parce que justement, il ne va pas du tout se baser sur la force physique, sur la dureté physique, mais au contraire sur un principe de relâchement permanent, un principe de vide en quelque sorte. D'accord ? Et ça va être intéressant parce qu'on va se rapprocher de l'aïkido. Du tai chi, vous savez, ce sont des mouvements qui sont faits au ralenti. On voit ça très fréquemment un peu partout, hein, notamment l'été quand il fait beau, dans les parcs, etc. C'est très joli, c'est très zen, hein, comme tu dis. Mais quelque part, ça cache en fait des mouvements d'arts martiaux, le tai chi. Alors attention, il existe aussi une autre branche qui s'appelle les qigong, puisque le tai chi est un des qigong. Et les qigong, ce sont aussi des mouvements faits au ralenti, mais pas du tout dans une optique martiale. Le tai chi est arrivé fin 19e siècle. C'était un qigong, mais qui cachait des mouvements d'arts martiaux. Je ne vais pas revenir sur le tai chi plus en détail, mais l'important, c'est de comprendre qu'on a une vraie filiation entre le tai chi et l'aïkido, puisque le principe, il est un peu le même. Il est utiliser la force de l'adversaire pour la lui renvoyer, en quelque sorte. Quelque part, on pourrait dire que, comme je dis, ces deux grands arts martiaux ont fait référence, mais plus les arts martiaux externes quand même, puisqu'ils se sont répandus dans toute l'Asie, ou du moins des formes diverses et variées sont nées dans tout un tas de pays d'Asie. Au Vietnam, il y a le Viet Vo Dao, le Taekwondo en Thaïlande et je ne sais où, etc. etc. Et il y en aurait une liste gigantesque, hein, je ne les cite pas. Et au Japon, puisqu'on en vient au Japon, le Japon qui a quand même était sous influence culturelle chinoise pendant très longtemps, hein, même si c'est un pays qui a une très très forte culture personnelle, eh bien, au XXe siècle, ont émergé ces grands arts martiaux que sont... je mets un ordre pas un ordre de grandeur, mais c'est un ordre de notoriété et de pratique, le judo, le karaté, et puis donc le troisième larron qu'est l'aïkido. Après, là aussi, il y a tout un tas de subdivisions et d'autres arts martiaux qu'on pourrait citer. Quelque part, le judo et le karaté sont emblématiques de ce que j'ai appelé les arts martiaux externes, c'est-à-dire l'utilisation de la force, d'accord, de la puissance physique, tandis que l'aïkido est celui qui se rapproche le plus de cette philosophie plutôt interne, même si quand même on est quand même un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire de l'aspect externe et de l'aspect interne. Mais dans la philosophie, on est vraiment dans quelque chose qui s'en rapproche le plus, en quelque sorte. Là, c'était pour remettre en contexte un petit peu l'aïkido à travers cette grande famille des arts martiaux asiatiques.
Oui, c'est vraiment une très très grande famille et c'est assez passionnant parce que nous, notre culture occidentale fait qu'on a vraiment quand même une vision toujours, et ça, pour moi, c'est le fil conducteur de l'émission, une vision de force et de domination. Alors que là, c'est pas du tout, à mon avis, la même chose.
Non, non.
On est vraiment dans une forme d'initiation, comme on a dit. Ouais. Alors justement, Lionel, comment inciter, comment pourrait-on donner envie aux individus de s'initier donc à l'aïkido ? Donne-nous des références aussi au niveau des livres, des sites.
Oui, tout à fait. C'est l'aïkido, est, donc je disais, hein, est accessible à tous. Et c'est vrai que...
On commence à le pratiquer à quel âge ? 7 ans à peu près ?
8 ans. Ça
8 ans ?
8 ans, d'accord. Parce que ça demande une certaine coordination.
Ouais.
On étudie donc un art martial.
Ok.
Et voilà, il faut qu'il y ait une certaine coordination. Quoi.
D'accord.
Ils ne peuvent pas commencer trop tôt.
Ouais, ouais, ok.
Mais c'est vrai que voilà, vous faites attaquer, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, dans les arts martiaux, il faut avoir du jugement. Et c'est en fait, beaucoup de gens croient que l'aïkido est un art de défense, alors que c'est un art d'attaque. On est pour anticiper l'attaque, éviter l'attaque.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là, donc, si vous faites trop tôt les choses, une seconde avant c'est trop tôt, une seconde après c'est trop tard, c'est dans le timing, faire les choses au bon moment. Et donc il faut du jugement, ça veut dire que la personne vous attaque, qu'est-ce que je fais ? Et donc s'il est plus fort que vous, il ne va pas spécialement vous le dire.
Ouais.
Et si vous savez qu'il est plus fort que vous, si vous pouvez vous sauver en courant, vous sauvez en courant.
Oui, tout à fait.
Mais par contre, si vous pensez pouvoir le maîtriser, et c'est là justement le jugement C'est tout au long de la pratique, tout ce qu'on fait régulièrement, au dojo, les stages, tout ça, qui va affiner ce jugement. Et sur le plan martial, ou martial ça veut dire guerre, vous faites une erreur, vous êtes mort, vous ne pouvez pas recommencer.
D'accord. Est-ce que quand tu as en face un pratiquant qui fait 20 kilos de plus que toi, est-ce que ça te met en position d'infériorité? Est-ce que tu sais, quel que soit le niveau, à niveau égal on va dire, est-ce que tu sais que tu seras perdant dans le combat?
Et non, justement, parce que comme dirait le fondateur Ueshiba, il n'y a pas de combat en Aïkido. Parce que c'est le principe de non-résistance, et tout ce qui est non-résistant est déjà victorieux. Donc vous êtes victorieux avant même d'avoir commencé. Et c'est pour ça qu'on parle d'art de paix. Et c'est vraiment l'étude, en fait, j'en ai pas parlé, mais le dos, l'objectif, c'est pas d'apprendre un catalogue de techniques, l'objectif, c'est changer nous-mêmes, et vous changerez tout ce que vous faites. D'accord. En fait, le problème, c'est nous.
Alors, l'initiation, elle se pratique où? Alors, le dojo de Villefranche se trouve où, Lionel?
Donc, au complexe sportif, comme je disais tout à l'heure, rue Ogyo, où vous avez aussi du karaté, du judo. Donc, direction l'hôpital, au feu, à droite.
Et donc, on vient directement te voir, Lionel, avec des professeurs, non? Il n'y a pas des professeurs?
Non, tout à fait, il n'y a pas de professeurs. Donc, la référence, c'est un maître, un dojo. On est dans l'étude d'un art traditionnel, et donc quand le maître n'est pas là, c'est les ushidoshi. Donc moi je suis un élève du maître, on parle de ushidoshi, et quand le maître n'est pas là, c'est l'élève qui remplace le maître.
Alors il n'y a pas de cours débutant et de cours avancé, tout le monde est ensemble alors?
C'est ça, et c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir faire la différence dans un combat où vous, dans le sport, vous êtes tout de suite diminué, vous pouvez vous sentir diminué, et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire, alors qu'en Aïkido, tout le monde pratique avec tout le monde.
D'accord.
Toutes les catégories, c'est mixte.
Et vous avez combien de cours par semaine? Je reviens à des choses concrètes dans ce dojo.
Et donc, on a des cours, on a deux cours par semaine.
D'accord. Qui sont quels jours?
Donc, le mardi, cours enfant.
OK.
Donc, mardi, 18h, cours enfant. Et 19h30, le cours adulte.
Et ça dure 2h, 1h30?
Ça dure 1h30.
1h30.
Et le vendredi.
19h30 à 21h, alors?
Oui, tout à fait.
Donc, mardi et vendredi, pour les adultes, en tout cas.
Oui, c'est ça. Adultes, adolescents, parce que...
D'accord.
Adolescents...
Oui, bien sûr, à partir d'une quinzaine d'années...
Dès qu'il peut pratiquer avec l'adulte, un adolescent de 15 ans ne va pas le mettre avec un enfant de 8 ans. Bien sûr. Ou il ne progresserait pas.
Est-ce que tu veux nous citer des livres ou sites internet pour que les auditeurs puissent éventuellement s'y référer si ça les intéresse?
Oui, donc vous avez le site internet, donc EPA ISTA, Aïkido, Dojo Traditionnel à Villefranche, Alain Perrache, L'Enseignement, le livre. Donc Alain Perrache a écrit plusieurs livres.
Oui.
Et édition Chinon, L'Enfant et l'Aïkido, Le Dojo.
D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir de l'aïkido? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir de l'aïkido à Villefranche?
C'est vrai que l'aïkido à Villefranche, on ne peut pas exister sans les autres. Bon, c'est toujours un peu le problème. C'est une image de nous-mêmes à travers deux cultures différentes. Donc, nous, c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous intéresse.
Oui.
C'est pas de faire des choses qu'on fait tous les jours et qu'on connaît. Mm-hmm. Le fait d'étudier une autre culture que la nôtre, c'est ce qui nous enrichit. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on est dans le respect de cette tradition.
D'accord.
Et c'est vrai que l'aïkido à Villefranche, c'est accessible à tous.
Mais donc, venez tenter le coup à la rentrée prochaine.
Nombreuses et nombreux, voilà. Hommes et femmes, petits, grands, plus âgés, moins âgés.
J'ai oublié de dire quelque chose d'important. On peut, donc la personne qui veut faire de l'aïkido, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. C'est quelque chose qu'il faut essayer.
Ouais, c'est pour ça que je dis, venez faire un essai. Ouais.
C'est pas quelque chose qui se mesure, ça s'apprécie. Et du coup, il faut essayer. La personne peut essayer toute l'année.
Merci Lionel. Merci beaucoup Lionel. Merci aussi Patrick. Alors avant de vous laisser, le qui suis-je, souvenez-vous. J'ai eu un grand succès dans les films d'arts martiaux dans les années 70. Il s'agissait évidemment, Patrick, de
Bruce Lee.
Bruce Lee, eh oui. Et nous arrivons donc au terme de cette émission très intéressante sur l'aïkido. Donc bonsoir à Mathieu, bonsoir et merci Lionel pour cette intervention. Au revoir.
Merci à vous.
Et au revoir Patrick.
Merci Lionel.
Et à très bientôt et bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Au revoir. Ok. Pokermenteur.
Pokermenteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Pokermenteur.
Pokermenteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.